On va démarrer Bezrat Hashem, page numéro 1 sur le mot Déani. Juste une petite introduction, hein, que la manière comment on va étudier la Tfila. On va se focaliser principalement sur la traduction et le sens des mots. De manière à ce que le but qu'on va chercher à obtenir, c'est quoi? C'est que quand on fait notre Tfila du matin, plus ou moins à grande vitesse, d'accord? Au moins, quand on passe chaque paragraphe, on sait globalement de quoi il parle. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a des sidourim, comme j'ai vu aujourd'hui, ils ont fait le sidour qui s'appelle Porte de la délivrance, qui traduit mot à mot. Mais un sidour comme ça, pour suivre mot à mot, ça prend au moins 2 heures la fila. C'est impossible de faire une fila comme ça en suivant mot à mot. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir le sens global. D'avoir le sens global des paragraphes. Ça, c'est une première étape. De manière à savoir de quoi on parle. Comprendre qu'il y a une différence entre Baruch Shamar, entre Ishtabach, entre Ashrejevetecha, on parle de choses différentes, c'est des choses différentes, c'est pas du tout la même chose. Et comme ça, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile et que la tefila se vit complètement autrement. C'est pas, quand on sait de quoi on parle, c'est complètement autrement. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui a amené un sidour ici, un sidour qui s'appelle Kol Haneshama. Un sidour qui est très bien fait, parce que avant chaque petit paragraphe, il y a 2 ou 3 lignes pour dire de quoi on parle. 2 ou 3 lignes. Voilà, par exemple, juste avant Modéani, il donne une ligne, nous remercions Dieu qui au matin nous rend notre âme. Sans rentrer dans la traduction de chaque mot exactement, il donne en gros de quoi on parle.
Le sens.
D'accord ? Le sens. Ensuite, voilà, par exemple, sur la bracha des toilettes, nous louons Dieu qui veille au bon fonctionnement de notre corps. Donc c'est général, c'est peut-être trop court.
Ouais.
D'accord ? C'est peut-être trop court. Mais une fois qu'on aura fait ce passage-là ici, ce sera plus facile peut-être en suivant ce sidour.
Excuse-moi, je vois actuellement, depuis que tu as dit, il faut comprendre tout ça. J'étais pas prêt. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est des étapes, hein, de lire en français, c'est-à-dire non, de parler hébreu, et que mon regard voit la traduction en même temps en français. J'y arrive, hein. Pas tous les paragraphes, parce que c'est une gymnastique qui remonte à l'époque du phonétique.
Ah oui, d'accord.
Ah non, ça, celui qui n'est pas au courant, il ne peut pas. Moi, à l'époque, je prie avec 3 livres, le français, le phonétique et l'hébreu. Et donc ça m'a permis de mettre en place, mais c'est formidable, attention, hein, si je dis ça, c'est que c'est formidable. Hein. C'est-à-dire, tu lis en hébreu, pour moi qui ne comprends pas l'hébreu, et je lis la traduction en
français. J'ai compris.
C'est génial. Et j'abonde dans ton sens.
D'accord.
Alors, ce que je ne connais pas, pardon, alors qu'est-ce que je fais? Je relis que la bénédiction d'après le paragraphe.
Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, donc le sens général.
Le sens général.
C'est le plus important. Le plus important, c'est de comprendre le sens général. Après, tout le reste, c'est du bonus. Après, bon, bien sûr, de temps en temps, on rajoutera des petites kavanotes, selon la Kabbalah, selon le Chassidut, etc. Mais ce qui compte, c'est de retenir le sens général. Donc, on commence par Modéani Lefanera. Le sens général de la tefila de Modéani, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. On dit merci. Donc, je traduis dans les mots. Modéani Lefanera, Melech Chai Vekayam. Je suis reconnaissant envers toi. Donc, je parle à Dieu, je suis reconnaissant. Dieu, c'est pas que Dieu a besoin de notre reconnaissance, mais c'est nous qui avons besoin de sentir qu'on lui doit quelque chose. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Il n'a pas besoin de notre merci. Vous savez, en général, quand on dit merci à quelqu'un, on le fait pour lui. Par exemple, quelqu'un il me tient la porte. Je lui dis merci. Je le fais pas pour moi. Je le fais pour lui, pour le remercier. Dieu n'a pas besoin de notre merci. Mais c'est nous, pour sentir qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Surtout, c'est un parallèle avec ce qu'on étudie en ce moment dans le cours de Tania. Pour sentir qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on dit « Modéani lefanecha », on te doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on est reconnaissant, on est reconnaissant envers toi, « Melech Chai Vekayam », le roi qui est vivant et qui existe. On expliquera après dans la suite qu'est-ce que ça veut dire un roi qui est vivant et qui existe. « Chez Chezarta Binishmati », que tu m'as rendu ma neshama, puisque vous savez que quand on va dormir la nuit, notre neshama monte au ciel. C'est pour ça que même scientifiquement, on a du mal à expliquer comment ça se fait qu'une personne, lorsqu'on va dormir, on perd entre guillemets la conscience. Et on la récupère en se réveillant. Scientifiquement, c'est pas encore vraiment expliqué ce phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on perd la conscience et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle revient? Alors, nous, on sait, selon la Kabbalah et selon ce qui est expliqué dans la Tchilat, on sait que, en vérité, ce qui se passe, c'est que la Neshama s'en va. Quand on va dormir, la Neshama s'en va. D'ailleurs, la Gemara Brachot nous dit que quand on va dormir, le sommeil est comparé à un 60e de la mort. Comme on l'avait expliqué dans Mishnah Berurah, ça c'est à partir d'une demi-heure de sommeil. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu la Neshama qui nous a pris. C'est ça, en d'autres mots. Cheikh Rezarta Abinishmati. Donc je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu ma Neshama. Bechemla. Bechemla, ça veut dire avec pitié, ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas méritant. Et que, à la limite, si Dieu en haut aurait fait un compte rendu à chaque fois de nos actions, il aurait dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je fasse redescendre sa Neshama? Est-ce que vraiment on a besoin de lui sur Terre? Je sais pas à quelle conclusion il sera arrivé. Et pourtant, d'accord, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il dit quand même, je décide de refaire descendre cette Neshama. Donc on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. On lui dit merci. On lui dit, écoute, on n'est pas spécialement méritant, et tu continues à nous faire vivre quand même comme si de rien n'était. Merci. Et ensuite, il dit, Rabba Emunatecha. Alors d'ailleurs, il y a des gens qui disent, vous remarquerez qu'il y a un point entre le Bechemla et Rabba. Parce qu'en hébreu, c'est pas la même chose. Cheikh Chezarta Binishmati Bechemla, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu ma Neshama avec pitié. D'accord? Point. Ensuite, on dit, Rabba Emunatecha. Rabba Emunatecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emuna qu'on a envers toi, Kadosh Baruch Hu, c'est une Emuna qui est très grande. C'est une Emuna qui est très grande, qu'en vérité, tout tient sur la Emuna. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la première chose qu'on fait le matin, avant même de rentrer dans les explications et la compréhension, on dit merci à Dieu, et on réalise que tout est basé sur la Emuna. Que quoi qu'il en soit, tout est basé sur la Emuna. Ça, c'est la première chose qu'on dit le matin. On l'a dit même avant de se laver les mains. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le nom de Kadosh Baruch Hu, en tout cas pas explicitement, de manière implicite, c'est écrit. Parce que quand on parle d'un roi qui est vivant et qui est Kayam, alors la différence entre un roi qui est vivant et qui existe, je vous explique, et c'est très simple. Chai, c'est quelque chose qui est vivant, qui est quelque chose qui est vivant qui ne s'arrête jamais. Nous, notre vie s'arrête. D'accord? Kayam, c'est quelque chose qui est non seulement vivant, mais quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Dans le temps, il s'arrêtera jamais. Par exemple, tout s'arrête. Par exemple, vous prenez même le soleil, les astres, même si ils s'arrêtent pas. Mais on sait qu'avec le temps, il y a une déperdition, obligatoirement. La seule chose qui ne bouge pas, qui reste kayam, qui se maintient et qui ne change pas, c'est Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on ne dit pas explicitement le nom de Dieu, mais implicitement, on parle de Dieu. Pourquoi on ne dit pas clairement le nom de Dieu, Hachem Elokeinu, par exemple? Parce que ça, c'est une bracha que les Chachamim ont voulu qu'on dise avant même de se laver les mains. Or, avant de se laver les mains, le matin, on ne peut pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. On a encore les mains impures. D'accord? Les mains sont impures, puisqu'on dit que lorsqu'on dort, il y a un esprit d'impureté qui réside sur notre corps. Puis comme la Neshama est montée, qui c'est qui prend le relais? C'est l'esprit d'impureté. Comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est comme ça, c'est un esprit d'impureté. Et quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on se réveille, cette impureté s'en va du corps, mais elle reste aux extrémités du corps. En vérité, elle reste dans toutes les extrémités. C'est pour ça que, par exemple, selon Shulchan Aruch, de se gratter les yeux avant de se laver les mains. Parce que c'est les extrémités. Toutes les extrémités, d'accord, c'est là-bas que l'impureté reste. Mais l'endroit principal où elle reste, c'est les mains. Et surtout, à la fin des mains. Les extrémités du corps. Donc, puisqu'on a les mains impures, on ne peut pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais néanmoins, les Chachamim ont insisté pour que la première chose qu'on dise le matin, la première chose qu'on pense, c'est le fait qu'on dit merci à Akadosh Baruch Hu. Alors après, il y a beaucoup de minagim autour de Modéani, il y en a qui ont l'habitude, par exemple, que lorsqu'ils font Modéani, ils vont s'asseoir sur le lit, et ils vont diriger leurs mains vers le ciel, vers la fenêtre ou vers le ciel, diriger leurs mains l'une contre l'autre, d'accord? Vous voulez montrer à Julien?
Oui.
Voilà, comme ça, exactement. Donc l'une contre l'autre, comme ça, et les dirigent vers le ciel, et ils disent Modéani. En d'autres termes, c'est encore une fois une manière de dire merci à Kadosh Baruch Hu, et de lui dire que quoi qu'il en soit, tout est basé sur notre Emouna. D'accord? Et bon, après on a beaucoup de commentaires qui disent pourquoi on doit remercier à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il nous rend la Neshama. Il y a un des commentaires qui dit la chose suivante. Il dit que normalement, lorsqu'on prête quelque chose à quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un me demande, il dit, est-ce que tu peux me prêter, s'il te plaît,
un CD.
Je lui prête le CD. D'accord? Je lui prête le CD. Qu'est-ce qui va se passer?
Il
va me le rendre. Il va certainement me le rendre. Quand? Mais il ne me le rendra pas dans le même état que je lui ai donné. Obligatoirement. Il y a de l'usure.
Pas tout de suite.
Et nous, qu'est-ce qui se passe avec chez Akadosh Baruch Hu? Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu nous rend l'année chemin quand on veut. Tandis que je me réveille, il me la rend tout de suite. Et en plus, non seulement qu'il ne me la rend pas usé, mais il me la rend mieux que ce que je lui ai donné. Parce que quand on se lève, on est retapé.
Ouais.
D'accord? Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu de se réveiller avec la bonne humeur en pleine forme. Ça c'est la première chose.
Excuse-moi, deux petits question. Si on se réveille dans la nuit,
oui.
Est-ce qu'on fait tout le processus ou on va par exemple aux toilettes, on fait notre prière, on revient?
Alors si on se réveille dans la nuit, s'il fait encore nuit, on ne fait pas Modéani, mais on se lave les mains.
Non, d'accord.
Okay. On se lave les mains. Alors, si on se réveille, on se lève. Si on ne se lève pas, on ne fait rien.
Non, non, tu te réveilles, tu vas par exemple
aux toilettes.
Aux toilettes.
Très bien, je me réveille aux toilettes, je me lève les mains.
Avec prière ou sans prière?
Non, sans prière.
Ah, tu ne fais pas chariot
ça? Non, je ne fais pas chariot ça. Je me lève les... Il n'y a pas de chariot ça. Je me lève, je vais aux toilettes, en sortant, je fais chariot ça.
Ben oui.
Oui. Alors, en sortant.
De... En sortant, bien sûr.
Oui. Mais je fais pas la bracha aniti et daim, je fais pas modéani, je fais pas tout ça.
On fait pas tout ça. On attend que.
Ça, on le fait que dans les bénédictions du matin, lorsqu'on est sûr, lorsqu'on
se lève. On est sûr qu'on se réveille.
Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est donc modéani le fanira. D'accord. Ensuite, il continue, il dit comme ça. Bien, celui-là. Alors, ensuite, vous avez normalement, voilà, Baruch Ata, Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Mitzvotav Vetivanu, Al Netilat Yadayim. Alors, attendez, je cherche ici, parce que je crois qu'ici, ils ont un autre ordre, ceci. Bon, je prends ici. Alors, en passant, je rappelle ce qu'on a dit dans le Mishnah Brura, que chaque fois qu'on dit le mot Hashem, chaque fois qu'on dit le mot Yudke Vavket, donc Baruch Ata Hashem, on y a une kavana particulière à avoir. C'est quoi la kavana? C'est qu'Akadosh Baruch Hu est passé, présent et futur. Ça c'est Yudke Vavke. Parce que dans le mot Yudke Vavke, on retrouve le terme être au passé, au présent et au futur. Et Elokeinu, d'accord? Elokeinu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. C'est le maître. Normalement, selon Shulchan Aruch, on devrait avoir cette kavana chaque fois qu'on dit le mot Hashem Elokeinu. Donc je répète, deux kavanas. Première kavana, qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent. C'est-à-dire passé, présent, futur. Et deuxième kavana, de se dire que Kadosh Baruch Hu est le patron du monde. Comme dans les faits, on sait que, bon, je ne sais pas si on va réussir à avoir cette kavana dans chacune des 100 brachot, par exemple, qu'on va dire pendant la journée. Donc, une des choses qui est préconisée, c'est d'avoir cette kavana dans la première bracha qu'on fait le matin. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai la kavana la première fois, et les autres fois, je vais essayer de le faire, mais au moins la première fois. Comme ça, les autres suivront. Donc, c'est pour ça que la première bracha, c'est la plus importante.
Il y a aussi un petit texte à dire pour justement que si on n'a pas la kavana.
Ce Yeratson, oui. Oui. Il y a des sidurim dans lesquels ils ont mis ce texte.
Ça nous rend qui, toi?
Il y a Yeratson, oui. J'ai vu dans certains sidurim, il y a Yeratson qui dit.
De la délivrance,
ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de dire le Yeratson. Le Yeratson, c'est un bonus. Ce qui compte, c'est de penser, de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, je vais essayer d'avoir la kavana, mais si je ne l'ai pas.
Voilà. Là, on le dit explicitement en début de journée.
C'est clair. C'est clair qu'explicitement, c'est toujours mieux. Donc il dit comme ça, Baruch Ata Hashem, tu es béni, Hashem. Elokeinu, Melech Haolam. Donc, notre Dieu, le roi du monde. Ça, c'est un texte qui reviendra constamment. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Alors, deux secondes. Parce que j'ai beaucoup de lieux en face de moi. Voilà. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Puisque c'est un texte qui revient très souvent, je voudrais peut-être m'arrêter un peu plus pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Je vais l'expliquer littéralement. Et je vais expliquer après ce, ésotériquement. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, littéralement, ça veut dire tu es béni, Dieu, notre roi, le roi du monde.
Tu es sûr, c'est bénédiction.
Ça sert. Non, littéralement, ça veut dire ça. Tu es béni. C'est-à-dire, on bénit Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, le problème qu'on a, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on le bénisse. Quand je vais voir un roi, quand je vais voir un président, je vais lui dire merci, je vous bénis, etc. Il a besoin de ma bénédiction. Ça veut dire du kavod. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre kavod.
On le bénit pas. On le bénit pas en plus.
Donc comment je peux le bénir? Pour bénir quelqu'un normalement.
On le loue pour sa grandeur.
Pour bénir quelqu'un, il faut avoir quelque chose. Quand je bénis quelqu'un,
à lui apporter.
D'accord, il faut avoir que j'ai quelque chose à lui apporter. C'est quand je dis monsieur, que je te bénis, que Dieu te donne ça. Ça veut dire que toi tu n'aurais pas pu le trouver tout seul, et moi je te donne quelque chose que tu n'aurais pas pu trouver. Or ici quand je bénis Akadosh Baruch Hu, ça veut rien dire. Ça veut rien dire que moi je bénis Dieu. Quand on réfléchit, on voit que ça veut rien dire. Donc on est obligé de dire qu'il y a un autre sens. Un autre sens au Baruch Ata Hashem. Donc là, on arrive à la conclusion, comme ce qui est ramené d'ailleurs dans le Tanya, dans le Nefesh HaChaim, dans le Bichaim de Vologine, la majorité des penseurs juifs expliquent comme ça, que dans Baruch, comme ce qu'a dit M. Daniel, il ne faut pas entendre Baruch comme béni, mais il faut entendre Baruch comme source de bénédiction. On va aller un peu plus loin que ça. Baruch, en hébreu, c'est la même racine que Amavrir. Amavrir, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si on fait comme ça aujourd'hui encore dans les vignes, mais à l'époque, quand on voulait fortifier une vigne, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'extrémité de la vigne, l'extrémité supérieure, on la replantait dans la terre. Ce qui fait qu'on avait comme un U. Et ça, ça fortifiait la vigne. Et dans la Mishnah, cette action-là, donc ça veut dire que d'abord la vigne, elle poussait, et après à un certain moment, on la repliait. On la faisait descendre vers le sol, ce qui formait un U. Cette action, dans la Mishnah, s'appelle comment ? Amavrich et Agefen. Celui qui fait baisser, celui qui baisse, et Agefen, donc la vigne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le terme bracha, donc c'est bon, il y a beaucoup d'alachot autour de ça, d'accord ? Mais en tout cas, ça veut dire que le terme bracha ne veut pas dire seulement bénédiction, mais veut dire également faire descendre quelque chose. Source de bénédiction, faire descendre. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Baruch ata Hashem. On dit tu es béni Hashem. Je parle à Dieu. Vous avez remarqué que dans la tefila, je vais expliquer un peu plus le Baruch ata parce que ça se revient souvent. Vous avez remarqué que dans la tefila, dans la majorité des cas, on va remarquer qu'on parle à la troisième personne. Je dis jamais Dieu. C'est très rare qu'on dit à Dieu tu. À part dans la Amida. On verra après. Mais en général, dans la tefila, on parle toujours à la troisième personne. Ça veut dire, on dit, par exemple, Dieu fera, Dieu, nous le peuple juif, mais je parle jamais à tu. Je dis jamais à Dieu tu, Baruch Ata. D'accord, le seul endroit où on retrouve tu, c'est dans le Baruch Ata. Pourquoi ? C'est fait exprès. C'est pour dire que Baruch Ata, ça veut dire qu'on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il va descendre, rappelez-vous, Baruch, ça veut dire descendre. Baruch Ata, il va descendre jusqu'à ce qu'il va faire partie de notre identité personnelle, pas la troisième personne. Baruch Ata, je te bénis, comme si tu es devant moi, parce que je sens qu'à Kadosh Baruch Hu, tu descends vers moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Hashem Elokeinu. On l'a expliqué plusieurs fois, la différence entre Hashem et Elokim. Alors, qui peut m'expliquer la différence entre Hashem et Elokim ?
Alors, Hashem.
Hashem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est
en haut,
plus haut que la nature. D'accord ? Et Elokim, c'est la même valeur numérique que 86.
Hateva.
Donc, Hateva. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend dans la nature. Et quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, donc on dit que Akadosh Baruch Hu, tu es devenu mon Dieu. Et à un moment français, on dit mon Dieu. C'est-à-dire quoi, mon Dieu ? C'est le Dieu de tout le monde. Quand on dit mon Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je réalise que Dieu fait vraiment partie de ma vie. C'est pas simplement une notion générale qui existe. Baruch Ata, tu es béni. Hashem Elokeinu, donc Hashem qui est notre Elohim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Hashem qui normalement est plus haut que la nature, mais qui est descendu dans la nature. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Melech Haolam. Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech Haolam, ça veut dire quoi Melech Haolam ? Ça veut dire le roi du monde. C'est quoi un roi ? Un roi, par définition, c'est quelqu'un, je sais qu'aujourd'hui, avec les présidents qu'on a aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça, mais par définition, un roi, c'est quelqu'un qui est plus haut que le peuple. Les gens ne savent pas exactement ce que le roi y fait, qu'est-ce qu'il fait, où il va, quand il va. Le roi est quelqu'un qui est beaucoup plus haut que le peuple. Il est sur le peuple, il dépasse le peuple. On dit que le peuple, dès qu'il s'approche du roi, il se sent petit en face au roi. Et qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu ? On dit « Baruch ata Hashem Elokeinu » Mais à Kadosh Baruch Hu, toi qui es descendu, à tel point que tu es devenu notre Dieu, que tu es descendu, tu restes pour autant « Melech Haolam » le roi du monde, ça veut dire que tu supervises par en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce petit paradoxe qu'on a ici. En même temps, c'est la vie du juif ça, en même temps on prend conscience qu'à Kadosh Baruch Hu est présent dans chaque détail de notre vie, et il descend dans notre vie. Mais en même temps, on prend conscience que Dieu, ça reste le patron, le roi du monde, ça veut dire qu'il suit les choses de haut. Et que c'est pas notre petit copain. D'accord ? Ensuite, Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Vetivanu, Al Netilat Yadayim. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu, donc enfin, c'est pas exactement remercier, mais on bénit Akadosh Baruch Hu, donc on essaye de faire descendre la bracha. C'est pour ça d'ailleurs, en passant, quand on va chez un tzadik, on lui demande une bracha. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik ? Le tzadik il bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Ça veut dire que le tzadik est une bracha.
Le tzadik
va faire descendre la bracha. La bracha est déjà là, mais elle n'arrive pas à descendre. La même chose. Donc le concept de source de bénédiction. Asher qui déchaîne mitzvotav, donc Dieu qui nous a sanctifiés avec ses mitzvot. C'est une chance qu'il nous a donné. Bon, après on a eu des sens plus avancés dans le cours de Tania, hein Julien ? Ouais. Bon, on ne peut pas tout répéter un cours comme ça. Mais Asher qui déchaîne mitzvotav, donc que Dieu nous a sanctifiés avec ses mitzvot. Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, ben, quelque part, on devient kadosh, on devient saint. Vetivanu, et il nous a donné un ordre. Al Netilat Yadayim, il nous a donné l'ordre de se laver les mains. Alors, il faut savoir quelque chose. Normalement, quand on dit que Dieu nous a donné un ordre, ça veut dire que la chose a été écrite explicitement dans la Torah. Netilat Yadayim, se laver les mains, c'est pas écrit explicitement dans la Torah. C'est pas écrit explicitement, c'est les Chachamim qui nous l'ont donné. Alors, pourquoi on dit que Dieu nous a pas ordonné ? La réponse, c'est comme le Yahabet explique, il dit parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'écouter tout ce que les Chachamim diront. Donc du coup, lorsqu'on fait Netilat Yadayim, parce que les Chachamim nous l'ont demandé, on fait une mitzvah que Dieu nous a ordonné. D'accord ? Donc ça, c'est la kavana générale de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ça veut dire qu'on prend conscience que Dieu, en même temps, il est descendu très très bas, ça veut dire il fait partie de notre vie, mais en même temps, il reste le roi du monde. Et ce Dieu nous a donné la chance de nous sanctifier, qu'on devient kadosh lorsqu'on fait les mitzvot. Donc il nous a donné des mitzvot. Là, notamment, on parle de al netilat yadayim, de se laver les mains. Donc netilat en hébreu. Netilat en hébreu, ça vient de l'araméen, ça vient du mot natla. D'accord ? D'ailleurs, en Israël, encore, on utilise encore ce terme natla. Natla, ça veut dire se laver les mains. Voilà. Donc al netilat yadayim. Donc la netilat yadayim, c'est très important. Et le Avudram, qui est un des grands commentaires sur la tfila, il dit que al netilat yadayim, c'est le rachetevot de, si vous voyez les trois premières lettres, la première lettre de chacun des trois mots, al netilat yadayim, c'est raïn, nun, et le troisième c'est quoi? Yud. Ça fait quoi? Ani, pauvre. Ça veut dire quoi? Le Avudram, il dit que celui qui ne fait pas attention à netilat yadayim, Dieu préserve, il arrivera à la pauvreté. Et d'un autre côté, celui qui fait attention à netilat yadayim, c'est une ségoula pour la richesse. C'est écrit clairement sur Chanaan, ça. C'est pour ça que netilat yadayim, toute la journée, chaque fois qu'on fait netilat yadayim, il faut s'efforcer de le faire comme il faut. Et c'est une ségoula pour la richesse. Al netilat yadayim ani. D'accord? Ensuite. Oui.
Donc quand on dit béni, si on traduit, ça veut dire que, en fait, c'est Hachem qui nous bénit.
Ça veut dire qu'on fait descendre une bénédiction. C'est Hachem qui nous bénit, oui.
Donc on lui dit, bénis-nous, roi du monde.
Non, c'est pas Baruch, en vérité, c'est ça ce que je dis. La traduction de Baruch, c'est pas béni. C'est descendu. Parce que béni, ça veut dire Baruch at Hachem, Kadosh Baruch, tu es descendu.
Ça veut dire de nous bénir.
Si vous voulez.
S'il fait descendre sa brara, il nous bénit.
Oui, ça veut dire, techniquement, c'est la même chose. Mais dans le sens, ça change tout.
Il bénit le pain.
Parce que c'est pas Dieu qui a besoin de moi, c'est moi qui a besoin de lui.
Oui, mais quand on lui demande, c'est que lui, il nous
bien sûr, il fait descendre une brara.
Il nous bénisse.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, ça n'a rien à voir avec le sens du mot que...
Le concept de Barour, c'est que très souvent, on a des brachot, que c'est pas très souvent, toujours. Normalement, on dit qu'à Rosh Hashanah et Kadosh Baruch Hu nous accordent toutes les brachot qu'on a besoin. Comment ça se fait que des fois, on a du mal à les voir arriver,
voilà,
et qu'on doit demander à un tzadik?
Parce
qu'il faut les récupérer, il faut les faire descendre. Des fois, ils sont bloqués.
C'est ça que je voulais dire.
C'est ça le Barour.
C'est ça.
C'est ça la demande. On lui demande
c'est ça.
De faire descendre, et à nous maintenant de les récupérer. Parce voilà, que si tu dis à quelqu'un, bénis-moi,
qui me bénit,
mais... c'est un ordre pratiquement, bénis-moi.
Ouais.
Donc si tu demandes bénis-moi, je ne sais pas si je peux me parler comme ça, donc tu crois une fois que tu as fini qu'il t'a béni. Or là, on dit, fais descendre les bénédictions, nous après on va les récupérer dans notre keli, non?
Oui, c'est sûr. Attention, c'est pas une. Je veux rajouter un point. C'est pas une demande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu ici. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de descendre, c'est un constat. On constate qu'à Kadosh Baruch Hu est descendu envers nous, et Akadosh Baruch Hu descend vers nous, et qu'en même temps Akadosh Baruch Hu reste le roi du monde, et que ce Dieu-là, qui est donc paradoxal, en même temps il est très près de nous, et en même temps il est très loin de nous, ce Dieu-là, il nous a donné la chance de nous sanctifier avec ses mitzvot, en lui donnant des ordres. C'est un constat, c'est pas une demande qu'on fait à Akadosh Baruch Hu ici.
Et oui, monsieur Galland,
on lui dit béni,
monsieur,
d'accord,
non mais, là, bon, on traduit béni tu Hachem, mais dans notre compréhension à nous, de quelle manière on peut le traduire pour qu'on comprenne ce que veut dire le sens de béni tu Hachem.
Voilà ce que je veux dire, comprendre ce côté paradoxal qu'est chez Kadosh Baruch Hu.
En traduction, pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire, quand on dit béni tu Hachem, en compréhension, pour nous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dieu nous fait descendre une bénédiction. On n'est pas en train de le bénir ici. Expliquez le.
En fait, on lui demande que.
Mais ça, en vérité, c'est déjà depuis avant même le Taniel Nefesh HaChayim. Déjà, le Rashba, il avait expliqué comme ça.
Donc, il nous bénisse alors.
Comme on dit que. Regardez, vous savez, j'ai pas le temps de faire la raca suivante, je vais vous dire un petit midrash. Le Rashba, dans les commentaires qu'il a écrit sur la Gemara Brachot, dit là-bas qu'on voit qu'à un certain moment, Avraham, il a demandé à Ishmael, il a dit Ishmael béni Barcheni. Il dit qu'il a demandé à Ishmael, Ishmael mon fils, bénis-moi. D'accord? Bon, alors, Ishmael mon fils, bon, a priori, selon ce que la Gemara explique, c'était, on ne parle pas de Ishmael, l'ancêtre des Arabes, on parle de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, lorsqu'il est rentré, donc c'était un Kohen Gadol, et lorsqu'il est rentré à Yom Kippour, donc le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, à ce moment-là, c'est écrit que là-bas, Dieu lui a dit, Ishmael mon fils, bénis-moi. Alors là-bas, les commentaires, ils posent la question, ils disent, mais je comprends pas. Ça veut dire quoi qu'il dit, Ishmael, mon fils, bénis-moi? Est-ce que Dieu a besoin de la bracha de Rabbi Ishmael?
C'est Hachem la source de la bénédiction.
Donc, voilà, donc on ne comprend pas.
Il n'y a que lui qui peut donner. Quand parce que c'est la source.
Et là, il explique justement, donc le Rajba déjà, hein, il explique là-bas, il explique pas autour de la tefila le Rajba. Le Rajba explique sur cette gemara là-bas, mais il dit clairement ce concept que, qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire Barcheni? D'accord? Barcheni, ça veut dire fais-moi descendre. Ça, c'est ce qui est en train de dire Dieu. Dieu lui dit, écoute, moi je suis en haut, toi tu es le Kohen Gadol, ton rôle c'est de me faire descendre. Donc Ishmael, béni, Ishmael, mon fils, Barcheni, fais-moi descendre. Ça change tout. Mais comme, c'est vrai que techniquement c'est la même chose.
On le lit dans d'accord la prière, ce passage-là.
Ishmael, béni, Barcheni.
Il a dit que ta miséricorde soit moins rigoureuse que ça.
Oui, non, mais Ishmael, béni, Barcheni, c'est la Gemara Brachot.
Non, on le lit. Tu sais pourquoi je le sais?
Dans le...
Je le lis en français.
Oui, mais il y a Golo Achamechal, c'est au début, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ça c'est avec Yitzhak.
Non, Ishmael, je te montrerai dans mon livre français. Moi, je peux te
dire. C'est vrai qu'on fait mention de Ishmael.
Ishmael, bénis-moi, il a dit. Et là, il a dit que ta miséricorde soit moins dure ou un truc comme ça. Je vais te le montrer si Dieu veut demain.
Il parle de Rabbi Ishmael.
Ah oui, ça, je suis sûr.
Je suis curieux de savoir.
J'avance, puisque je le lis en français et je vais te montrerai à quel
bon,
niveau.
Avec plaisir. Alors, dernier point sur lequel je voudrais finir. D'accord. Bon, ben, rattaché. Après, on avancera un peu plus rapidement dans la fila, hein, parce qu'on a du pain sur la planche. Mais dernier point que je voulais dire par rapport à Netilat Yadayim, d'accord. Par rapport à Netilat Yadayim, c'est que le Netilat Yadayim du matin, c'est très important de le faire 3 ou 4 fois. Mais Bessir Ugin, ça veut dire par intermittence. Ça veut dire main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Dans les autres Netilat Yadayim de la journée, si on fait pas comme ça, c'est pas grave. Même, il y a même des Netilat Yadayim qu'on fait pas comme ça, comme le Netilat Yadayim avant le repas. Mais le Netilat Yadayim du matin, si on le fait pas comme ça, d'après beaucoup d'avis, on n'est pas quitte du Netilat Yadayim. Il faut recommencer. D'accord? Donc c'est important de faire attention à ça. Et tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim, on ne touche pas de nourriture. Si on a touché de la nourriture devient impure. Si on a touché de la nourriture sans faire exprès, avant de se laver les mains, la nourriture est impure parce que la nourriture a été transmise par les mains. Donc on ne peut plus faire, on peut cette nourriture, on ne peut plus la manger, on est obligé de la jeter. On ne peut rien faire avec.
D'où le danger enfin, s'il y a quelque chose dans l'évier.
Alors, néanmoins, juste un petit point, on a l'habitude, on dit que ce problème-là, on le dit seulement en parlant de cette notion-là que les mains peuvent rendre impures, on l'a dit qu'en général, à partir de la bar mitzvah. Mais on éduque les enfants quand même quelques années avant à faire attention à ça. Puisqu'on dit que ce problème-là, ce phénomène que le corps devient impur, arrive qu'une fois qu'on a l'âme divine. Mais comme les enfants n'ont pas encore l'âme divine, enfin en tout cas elle n'est pas encore développée, donc il n'y a pas ce phénomène d'impureté. Donc si un enfant ne sait pas laver les mains le matin et il touche la nourriture, ça arrive, les biberons, les choses comme
bien
ça.
Sûr, bien sûr.
D'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà.
Si tu es dans l'évier, par exemple, le matin des assiettes,
pardon,
la vaisselle. L'eau est impure.
Le quoi?
On a dit que l'eau était impure la première fois. Si dans l'évier tu as une vaisselle.
Ouais.
Tu es obligé de la toucher pour l'enlever.
Avec une serviette.
Avec une serviette, c'est compliqué.
D'accord, je prends une serviette.
C'est ça, c'est l'eau tombe sur la vaisselle.
C'est quoi?
L'eau tombe sur la vaisselle, qu'est-ce qu'on doit faire de la vaisselle?
C'est pour ça que la veille...
Bon, c'est pas on lave la vaisselle, c'est pas grave, c'est que sur la nourriture, là, etc.
Et c'est pour ça que la veille, Julien, j'enlève toujours la vaisselle.
La nourriture devient impure, c'est comme si on a fait rentrer la nourriture aux toilettes, c'est la même chose.
D'accord. Voilà. C'est simplement fait dans une salle de bain, c'est mieux de faire dans une salle de bain.
C'est plus simple.
J'ai juste trois petites questions.
Ouais.
Quand on dit Elokeinu Melech Hashem Elokeinu, ça
oui
n'a rien à voir avec Midat Hadin et Midat Rachamim.
Si, ça a à voir. On dit que Hashem, ça correspond à Midat Rachamim, puisque Hashem, ça correspond à ce qui est très très fort, la lumière de Dieu qui transcende le monde et qui a priori ne calcule pas. Et Elokeinu, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est Midat Hadin, ça veut dire qui va être entre guillemets rigoureuse et qui va adapter donc la bracha selon la personne.
D'accord.
Donc nous, quand on dit Hashem Elokeinu, ça veut dire on dit qu'en vérité derrière le Elokim se cache un Hashem.
D'accord. Ok.
D'accord. Mais en parallèle, il reste Melech Haolam.
Ouais.
Il reste le roi du monde. Ouais.
Premièrement, je te dis que le tzaddik fait descendre la bénédiction.
Oui.
Que la bénédiction vient d'Hashem, le tzaddik fait descendre. Et quand Hashem a dit dans l'Echecha Avraham, je te donne le pouvoir de bénir.
Oui.
Est-ce que ça signifie qu'Abraham pouvait en fait bénir à proprement parler, qu'il était à ce niveau-là, on va pas dire légal, mais comme Hachem, et où ça signifie tout simplement qu'il avait peut-être pouvoir de juste faire descendre des...
Mais c'est ça la bracha. La bracha, c'est ça. Quand on dit qu'un tzadik a la force de bracha, ça veut dire qu'en vérité, tout le monde a des choses en haut. En haut, il y a de l'énergie pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir la faire descendre. Et la Kadosh Baruch Hu lui a dit à Avraham, toi, je te fais descendre pour toi cette énergie,
d'accord,
et je te donne la capacité de la faire descendre pour les autres.
J'ai compris. D'accord. Donc en fait, c'est uniquement capacité de faire descendre.
Oui,
d'accord.
Le tzadik ne peut pas inventer de nouvelles choses.
Merci.
C'est pour ça que des fois, le tzadik dit, je suis désolé, je peux rien faire.
Okay. Et troisième petite question, quand tu dis pour Netilat, Natla, moi j'avais entendu que ça voulait dire un Keli aussi en arabe.
Oui, Natla, c'est vrai qu'en Israël maintenant, on utilise le terme de Natla. Alors, qui c'est qui dit comme ça, sur le terme Natla? Il y a quelqu'un qui dit comme ça, deux secondes, hein. Sur un Netilat Yadayim, je crois que c'est le Yavet, je vais te dire tout de suite. Netilat Yadayim, non, où c'est que c'était? Parce que c'est un sidour qui est pas dans le même ordre, celui que j'ai ici. Voilà, Netilat Yadayim. Alors, ici, il amène le nom du Manhig, d'accord, et ainsi qu'au nom du Arour, que le kli avec lequel on se lave les mains, il s'appelait Nakla aussi. D'accord, donc effectivement, c'est ça.
C'est ça que j'ai entendu aussi que l'intol, Netilat Yadayim, c'est aussi de l'intol, qui veut dire prendre.
Oui.
Qu'on prenne les mains comme
ça. Alors, exactement, c'est un autre commentaire qui est expliqué aussi, que quand on dit Al Netilat Yadayim, ça vient du mot Nosé. Netila et Nosé, c'est deux mots qui se ressemblent. Ça veut dire qu'en vérité, nosé, ça veut dire élever ses mains.
D'accord.
Donc c'est parce que c'est deux mots qui se ressemblent en araméen.
C'est comme le netilatoula.
Oui, ça veut dire élever. Bon, mais ça c'est plus ésotérique, ça. Mais le pshat de netilat yadayim, le pshat de la bracha, c'est le fait qu'on fait descendre la bracha. C'est la plus importante. Voilà. Ouais.